Aujourd'hui, on continue encore la petite étude qu'on a commencée sur le guide de prière. Là-dedans, on a vu comme une évolution au niveau de tout ce qu'on pouvait prier. Puis en même temps, par la suite, on a continué avec l'idée de présenter des prières efficaces. Comment présenter des prières efficaces? Comment prier pour être sûr d'être exaucé? Ben, c'est ça qui est un peu l'idée. Dieu, il est prêt à exaucer nos prières, mais il a quand même mis des choses dans la parole. Il nous révèle des choses pour nous enseigner, bien entendu. Les disciples ont été voir Jésus, puis ils ont dit, enseigne-nous à prier. C'est pas évident à prier. On a besoin d'apprendre à prier. Puis, dans les divers enseignements à travers la Bible, on voit qu'il y a plusieurs endroits où ce que ça parle de la prière, puis des choses à faire ou à ne pas faire. Pourquoi que ça nous a été dit, vous pensez? C'est parce que Dieu veut qu'on soit exaucé. S'il nous donne ces idées-là, c'est parce qu'il veut qu'on rentre, puis qu'on prie de cette façon-là. On est en train de voir des différents blocages qui pourraient nous être des empêchements, des blocages à ce qu'on soit exaucé. Un autre point qui peut mettre une entrave à un exaucement de prière, parce qu'on a déjà vu quelques-uns, puis il nous en reste encore quelques-uns à voir. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est le blocage des prières dû au non-pardon. On a déjà parlé un peu sur le non-pardon, garder de la rancune, haïr, ça va jusqu'à haïr des gens. Est-ce que des chrétiens, ça peut arriver qu'un chrétien haïsse quelqu'un? Oui, ça peut arriver. Est-ce que Dieu veut qu'on haïsse quelqu'un? Non, il veut pas. Parfois, on pense que nous pouvons, en tant que chrétiens, que nous pouvons haïr certaines personnes qui nous font du mal. Il y a des chrétiens qui pensent cela. Ils pensent qu'à cause qu'ils sont chrétiens, ils ont le droit d'haïr des personnes. Puis ils peuvent se baser même sur un passage des Saintes Écritures, comme celui que je vais vous lire dans le psaume 139, les versets 21 et 22. Ça nous dit, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, puis ils sont pour moi des ennemis. » Ça, ce verset-là, quand tu le regardes aux premiers abords, là, tu dis, « Wow, ta minute, là, il est en train de dire qu'on a le droit d'haïr les ennemis de Dieu. » Il dit, « N'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? » Puis lui, le psalmiste, il rajoute, « Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. » Donc, dans ce passage-là, si on le regarde rapidement, ça voudrait dire qu'un chrétien a le droit d'haïr ceux qui haïssent Dieu. Est-ce que ça fait partie de la révélation de Dieu? Pas du tout. Ça, c'était dans le contexte de la loi de l'Ancien Testament qui était œil pour œil, dent pour dent. C'est pas dans la nouvelle alliance que Dieu a faite qu'il nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Dans ce temps-là, il y avait des principes qui étaient différents, mais ils devaient quand même aimer leurs ennemis. Mais, dans le Nouveau Testament, à la lumière du Nouveau Testament, ce passage-là s'applique plutôt le véritable ennemi de Dieu, c'est-à-dire le diable et ses démons. C'est eux autres, les ennemis. Quand il y a des problèmes dans la vie, la Bible, elle nous le dit dans le Nouveau Testament, de pas lutter contre les humains, de pas lutter contre la chair et le sang, mais de lutter contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est eux les ennemis de Dieu. C'est eux qui conduisent le monde dans la méchanceté. Ça veut dire que si n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, ça serait de la haine contre le prince des ténèbres, contre le monde occulte. Puis, la haine, c'est le contraire d'amour. Il y a des gens que dans leur philosophie, ils font des cultes, des messes, ils célèbrent le diable puis ses démons. Nous, les chrétiens, on touche pas à ça, puis on veut pas toucher à rien de ce qui est au diable. On veut les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire de Dieu. C'est contre lui que qu'on doit combattre, puis qu'on doit ne pas aimer, voyez-vous. C'est pas les humains. C'est un haine, là, qui anime souvent des personnes dans la société, puis des fois même des chrétiens. D'où est-ce que ça vient? Où ça commence, la haine de notre prochain? Qu'on commencerait à pu aimer la personne pour au point de vouloir la rejeter de notre vie, quitte même, il y en a qui ont dit, jusqu'à vouloir tuer la personne. La haine des humains provient du non-pardon. La racine du problème, c'est que les gens, ils n'ont pas appris à pardonner. Puis là, ils accumulent, puis accumulent, puis accumulent. Puis là, le non-pardon, quand ça accumule, tu pardonnes pas. Là, tu en veux de plus en plus. Tu deviens de plus en plus fâché, tu deviens en plus en colère, tu deviens de plus en plus rempli d'amertume. Tu deviens de plus en plus avec des réactions méchantes envers la personne, puis vouloir l'éliminer de ta vie. C'est ça qui est la racine du problème. C'est qu'on n'apprend pas à pardonner à mesure que les choses arrivent. Ça commence par une offense, puis ensuite ça devient de l'amertume, puis ça finit qu'on veut plus voir certaines personnes jusqu'à même à souhaiter leur mort. Parce qu'il y en a qui ont haï tellement, là, qui ont haï la personne tellement qu'ils ont sauté dessus pour l'étrangler ou ils ont payé quelqu'un pour la faire assassiner. Faut-tu être rendu loin dans le problème pour être rendu jusqu'à là? Le problème à la source, c'était le non-pardon. Parce que la première offense qui se fait, si tu apprends à pardonner, c'est effacé, ça compte plus. T'es accumules pas pour que ta vie soit remplie de haine. Ce qu'il faut comprendre aussi, que quand t'es pris avec de l'amertume, c'est contagieux. Tu peux transmettre ça aux autres. Quand ton cœur est rempli d'amertume envers une personne, puis tu te mets à parler contre cette personne-là à d'autres personnes, tu es en train de partager ton venin. Tu es en train de partager tes frustrations, tes blessures, puis ce qu'il y a, l'amertume, là, c'est le fait d'être amer, de pas être content, ça peut être de la tristesse, ça peut être tu t'as mal dans ton cœur, tu te sens à l'envers, mais ça peut être aussi un ressentiment, puis ça peut aller jusque dans la haine, l'amertume, ça se développe. Puis quand tu parles aux autres, tu transmets ton émotion avec. Puis ça, c'est un poison si les gens reçoivent tout ça, puis qu'ils embarquent là-dedans, mais ils vont se faire contaminer. La Bible en parle de cela aussi, de la contamination de l'amertume. Dans Hébreux 12, 15, ça nous dit, entre chrétiens, là, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Voyez-vous, le problème de l'amertume, c'est que la racine, c'est l'amertume. Pourquoi que t'es rendu amer? C'est parce qu'il y a eu du non-pardon. Mais t'es rendu amer, c'est des étapes comme si ton non-pardon, il a fermenté en toi. Là, tu médites ce que ta souffrance, tu médites ce que t'as entendu, tes blessures, puis tout ça, ça rempire. Puis là, après ça, ça dit qu'il y a des rejetons qui vont pousser de cela. Puis là, il dit qu'il y en a plusieurs qui peuvent être infectés. Ça veut dire qu'une église entière pourrait être infectée par du commérage, du mémérage, du chiolage, du que le monde s'en veut, puis que le monde s'alimente d'amertume, puis que ça se parle les uns contre les autres sans arrêt, puis que l'église peut être détruite, infectée par un poison qui va détruire. Aux yeux de Dieu, c'est pas léger. Surtout lorsque ces personnes sont des enfants de Dieu. T'es amère envers un autre qui est un enfant de Dieu. Là, tu te mets à parler contre la personne, puis là, on en rajoute, puis il n'y a plus rien qui est correct dans ce qu'elle fait. Quand tu es rendu amère, là, tout ce que tu vois de sa vie, tout ce que tu entends, tu tournes ça en méchanceté. Puis là, tu es en train de te battre contre des chrétiens, des enfants de Dieu. Là, lui, c'est loin d'avoir de l'unité, c'est un poison qui se répand. Hey, tu dis ça à l'autre, hey, t'as pas vu ce qu'elle a fait, t'as pas entendu ce qu'elle a dit. Puis là, le monde, ça l'embarque, puis quand ils embarquent, ils sont infectés eux aussi, ils vont répéter ça à d'autres personnes. Fait que c'est la division. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que l'amertume dans l'Église, puis le trouble qui va rentrer, ça va faire qu'on va être privé de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la bonté de Dieu, c'est les cadeaux de Dieu. C'est parce que grâce, c'est quand tu reçois par grâce, parce que tu le mérites pas. Fait que on pourrait être privé de ce que Dieu voulait nous donner parce que l'infection est pognée dans l'Église. Dieu dit de traiter le problème à la source. Il faut arrêter l'amertume et tout comportement qui encourage le manque d'amour complètement. Il faut arrêter ça complètement. On peut pas se dire, oh, juste un petit peu. Tu peux pas en garder un petit peu. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est ça que Jésus dit. Un peu de levain, ça fait lever la pâte. Fait que si tu gardes l'amertume, tu peux pas en garder. Faut que ça disparaisse. Tout ce qui pourrait entretenir l'amertume, faudra que ça disparaisse. Faut décider de vouloir garder l'unité plus que de vouloir avoir raison puis avoir le dernier mot. Dans Éphésiens 4:31, ça nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, c'est crier après quelqu'un. Toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça veut dire que faut adopter un comportement chrétien. De s'aimer les uns les autres. Puis toute notre amertume, les animosités, de la colère, de la clameur, de la calomnie, toute espèce de méchanceté, faut que ça disparaisse. Quand quelqu'un rentre dans l'Église, une nouvelle personne rentre dans l'Église, faut pas qu'elle entende des critiques d'un bord puis de l'autre, de tout ce qui se passe de l'un et de l'autre. C'est pas ça qu'elle a besoin d'entendre. Elle a besoin de voir l'amour de Dieu. Vous allez voir, je m'en viens avec l'idée de la prière. Jésus nous demande que l'on pardonne de tout notre cœur. Parce que pardonner, c'est pas, je vais y en pardonner un petit peu, mais, tu sais, en voulant dire, il est mieux de pas recommencer. Faut apprendre à pardonner de tout notre cœur. Jésus dit, nous demande que l'on pardonne au risque d'avoir des conséquences dans notre vie. Quand une personne refuse de pardonner, c'est à elle qu'elle se fait du trouble. C'est pas aux autres. Qui va avoir des conséquences? C'est elle. Dans Matthieu 6, les versets 12 à 15. On est dans la prière du Notre Père. Jésus est en train d'enseigner la prière du Notre Père. Puis là, on arrive dans le bout qui dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça, là, si on dit ça à Dieu, pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Mais si je suis pas une personne qui pardonne aux autres, je peux pas dire cette phrase-là. Je suis en train de dire, Dieu, pardonne-moi pas parce que j'ai décidé de pas pardonner à un tel par un tel. La prière du Notre Père va être prononcée par quelqu'un qui veut vraiment pardonner aux autres tout le temps. Si tu gardes rancune contre une personne, tu peux pas faire la prière du Notre Père. Tu pourras pas, parce que sinon tu es en train de te condamner toi-même. Dans cette prière-là, c'est un exemple de prière que Jésus a montré à ses disciples, fait qu'il voulait lui montrer en même temps comment se comporter envers les autres. Qu'il fallait qu'un disciple pardonne aux autres, puis après ça, il va être capable de prier conforme à la volonté de Dieu. Si tu gardes pas de rancune dans ta vie, ça veut dire que tu as compris d'obéir au Seigneur, de pardonner à mesure, parce que tu veux que Dieu te pardonne. Ça va jusqu'à dire que si je pardonnerais pas à quelqu'un, je ne serais pas pardonné. C'est moi qui aurais les conséquences. L'autre, il peut continuer sa vie, peut-être il sait même pas qu'on l'a eu. Il fait sa vie, lui, ça ne l'affecte pas ben. Ben moi, si je sais consciemment que j'ai pas pardonné, puis j'en veux à quelqu'un, mais je pourrais pas dire au Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, comme j'ai pardonné aux autres. Tu peux pas le dire, sinon, si t'as pas pardonné, tu vois, si t'es une personne qui mérite de manger une claque en arrière de la tête. Alors, regardez bien ce que Jésus dit après ça, au verset 14. Jésus rajoute suite après la prière du Notre Père, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Là, on est rentré dans la portion de notre vie comme le lavement des pieds. On a vu dans l'étude du lavement des pieds que Jésus a dit à ses disciples, quand vous avez accepté Jésus, vous avez été déclaré pur, on est entièrement pur. Mais dans notre marche quotidienne, on salit les pieds, puis qu'on doit se laver les pieds les uns les autres, dans le sens... On travaille avec les autres à les encourager pour qu'ils sanctifient dans leur vie, puis qu'ils marchent de plus en plus d'une manière pure. Puis si tu veux marcher d'une manière pure, mais il faut que tu apprennes à pardonner. Parce que si tu pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Ton lavage de pied ne se fera pas. Parce qu'il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais si je veux pas pardonner, il dit, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Ça veut dire que tous les autres péchés que je vais faire, cet encore-là, sont pas pardonnés, parce que j'ai refusé de pardonner. Voyez-vous comment c'est important de pardonner? Il dit, si vous ne pardonnez pas, au verset 15, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Même après que tu aies accepté Jésus. Un chrétien, selon les enseignements, il n'a pas le droit de garder de la rancune contre quelqu'un. C'est tolérance zéro. C'est aussi pire à haïr quelqu'un que de transgresser le commandement de Dieu qui dit « Tu ne tueras point ». Jésus a dit « Celui qui haït, c'est un meurtrier ». Fait que si t'es rendu que t'as de l'amertume, puis t'es en train de commencer à haïr la personne, t'es en train de transgresser le commandement de Dieu qui dit « Tu ne tueras point ». Le premier endroit à vérifier pour le non-pardon, c'est dans nos familles. Parce que c'est là qu'on a la majorité des relations qu'on vit, c'est avec les membres de notre famille. Puis s'il y a bien du monde qui nous ont irrités, puis qui nous ont fait des blessures, qui nous ont fait de la peine, qui ont pas fait ce qu'ils ont dit, puis blablabla, on en met, on se dit on aurait peut-être raison d'en vouloir, mais en réalité, on n'a pas de raison si on pardonne à mesure. Ça s'accumulera pas si on pardonne à mesure. Il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas de séparation ou de divorce, il n'y aura rien si tout sera pardonné à mesure. C'est à cause de l'accumulation qu'on finit par détruire notre vie de couple. Dans 1 Pierre 3, 7, ça nous dit, Marie, en parlant des hommes, c'était pas Marie, la mère de Jésus, là. C'était Marie. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. comme devant aussi irrité avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi de vivre dans l'harmonie et dans le respect, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On est en train de parler des obstacles de la prière. Le non-pardon, puis le manque de sagesse dans nos rapports avec puis que ça tourne en chicane, puis ça tourne au vinaigre, puis là, ça pourra tourner au non-pardon, ça pourra tourner avec l'amertume, puis ça pourra tourner en, comme qu'on a vu tout à l'heure, amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, commencer à parler même dans le dos de ta conjointe ou de ta famille, et toute espèce de méchanceté qui serait un aboutissement, comme une évolution, c'est comme un bouton d'acné qui rentre en éruption quasiment. Tout le méchant est là, parce qu'au début, il n'y a pas eu le pardon. On n'a pas appris à fonctionner ensemble dans l'harmonie. Puis ça peut nuire à nos prières. De pas être exaucé quand on prie parce que on passe notre temps à parler contre notre femme, contre notre mari, contre nos enfants, on est alimenté de méchanceté, on se met en colère, puis on toute l'amertume, puis le non-pardon, puis on y en veut. Faut apprendre à pardonner. Ça, c'est le premier endroit à vérifier. Ensuite, Jésus nous demande de sonder nos relations avec les autres. Dans Marc 11, le verset 24 à 26, Jésus est en train d'en cours de parler sur la prière et dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Merci Seigneur. Mais là, il ajoute l'autre verset après, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, » Il dit, tu vas être exaucé, mais quand tu es debout, quand tu fais ta prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous, là, le deuxième endroit qu'il nous dit de regarder, c'est tous ceux qu'on connaît. Puis là, il nous garantit qu'on va être exaucé, mais là, il dit, quand tu es en train de présenter ta prière, puis là, tu y penses, là, qu'il y a quelqu'un que tu y en veux. Lui, ce gars-là, là, il t'a fait de quoi, puis tu y en veux. Mais Jésus, il dit, pardonne. Règle ça, cette affaire-là. Garde pas ça, sinon tu ne seras pas pardonné. On voit que Jésus, il insiste sur ça, parce que c'est pas la première fois qu'il en parle. Puis il en a parlé aussi dans un autre passage. Dans Matthieu 5, le verset 23 à 26. Même si j'ai pas de rancune contre quelqu'un, même si j'en veux pas à personne, je suis chum avec tout le monde, mettons si on est comme ça, mais que quelqu'un d'autre a quelque chose contre nous, ben nous devons chercher à faire des démarches pour réparer la situation. Même si moi j'ai rien fait, mais je sais que l'autre a fait de, il m'en veut. L'autre, il a de l'amertume, lui, envers moi. Je dois faire des démarches pour pouvoir régler cela. Matthieu 5, le verset 23-26, ça dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. » Là, c'est pas toi qui a quelque chose contre lui. Tu te souviens qu'un autre a quelque chose contre toi. Laisse-là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là à ce que tu n'aies payé le dernier quadrant. On voit qu'il y a quand même une évolution dans les enseignements. Avec ta famille, ta femme, tes enfants, les autres autour, si toi tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne, Puis si tu sais qu'un autre a quelque chose contre toi, fais des démarches pour pouvoir régler ce problème-là. Pour pas qu'il n'y ait rien qui fera un obstacle à nos prières. L'unité avec les autres nous amène à être capables de prier unis avec les autres. Comme qui dit deux ou trois qui s'accordent. Mais comment est-ce qu'on pourrait s'accorder si on est en chicane? On ne pourrait pas s'accorder. Il faut apprendre à s'unir, puis pour s'unir, il faut pardonner. Dans Actes 1, 14, ça dit, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. » Ça en dit long au niveau de l'unité qu'il y avait dans cette église-là, pour que les gens soient capables de s'unir. « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. » C'est ça le but. Qu'on apprenne à prier, mais sans, puis qu'on soit dans l'unité, tous d'un commun accord, qu'on puisse être dans une parfaite unité, sans amertume, colère, chicane, problème, friction. Appelons ça comme que tous les noms qu'on a aujourd'hui, c'est tous des synonymes pour dire des problèmes qui doivent être réglés avant de présenter notre offrande à Dieu. Amen.